Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bonsoir à vous tous, auditeurs et auditrices de cette fréquence. Nous sommes encore à ce rendez-vous cet après-midi, à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Nous sommes toujours présents à cette heure-ci pour étudier un cantique et nous essayons de comprendre ce qui est dit dans la chanson au travers de la parole de Dieu. Et cet après-midi, nous allons parler du roi des rois. Nous parlerons du roi des rois, ce que c'est, ce qu'il est. On va essayer de le comprendre à travers cette chanson qui a ce titre, effectivement, Roi des rois. Je vous laisse écouter la version française de cette chanson-là.
Changer ta forme comme la vie, il est profond.
Ok, nous, roi des rois, à tout jamais. C'est le chant qu'on va étudier cet après-midi. Et bien avant cela, on va donner la parole à l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir Olivier.
Tu vas nous donner les paroles de la chanson Roi des rois. Et okay. Nous avons la version, également la version anglaise. Mais en attendant, on va commencer avec la version française. Et après, on va avoir les paroles en anglais. On va y aller.
Bien, la version française se présente comme suit. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Le deuxième couplet dit ceci, pour nous révéler ton royaume, et réconcilier les perdus, pour racheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Troisième couplet. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église est née, sa flamme, attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Le refrain dit ceci, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais.
Très bien. On va reprendre la chanson. On va écouter aussi la version anglaise de l'autre Laurent. Et tu nous donneras les paroles également de la version anglaise. On y va avec la version anglaise.
Mercy in your eyes, to fulfill the law
Voilà, c'est la version anglaise. L'autre Laurent, maintenant les paroles de la version anglaise également. Okay. Oui.
Premier couplet, in the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the world, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Deuxième couplet, to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing that this was for our salvation. Jesus, for our sake, you died. Le troisième couplet, and the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all would come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom, I am free for the love of Jesus Christ who has resurrected me. Le refrain dit ceci, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.
Très bien. Voilà, nous allons entamer maintenant l'émission proprement dite. Mais entre-temps, l'autre Laurent, on va parler de l'auteur, si on a des informations sur l'auteur. Et après, on va aborder les trois parties de la chanson et en plus le refrain en dernière position. Alors, on va aller avec le compositeur.
Bien, c'est une compositrice, elle s'appelle Brooke Gabrielle Fraser Lightwood. Okay. Plus connue sous le nom de Brooke Fraser. C'est une auteure, compositrice, interprète néo-zélandaise née le 15 décembre 1983 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Elle s'est mariée à Scott Ligertwood en 2008 et le couple a eu deux enfants, Dylan Wild Ligertwood et Ronnie Ivis Ligertwood. Brooke, dans sa famille maintenant, elle est l'aînée de trois enfants. Son père s'appelait Bernie Fraser et sa mère Linda Fraser. Elle a grandi à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et lorsque sa mère l'a entendue jouer du piano, quand elle avait deux ans, elle a compris, alors que sa fille avait un don, elle a fait en sorte que sa fille ait accès aux instruments de musique. À 7 ans, Brooke prend des cours de piano. À 12 ans, elle commence à écrire des chansons. Et ensuite, elle va apprendre à composer avec une guitare, donc en solo, seule, en tant qu'autodidacte. Et malgré ses talents de chanteuse, elle n'a jamais pris de cours de chant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait comme le conservatoire, c'est-à-dire là, aller se faire former. Donc, elle est membre du groupe chrétien australien Hillsong Worship. Hillsong Worship est un groupe de pop rock chrétien évangélique formé en 1983 à Sydney, en Australie, et qui est rattaché au groupe de louanges de Hillsong Church. D'accord? Et donc, Brooke affirme avec passion que toute la vie d'un disciple, de celui qui suit Jésus, est un ministère. La vie d'un enfant de Dieu est un ministère. Elle a déclaré dans une interview que les gens doivent être capables de voir Jésus plus clairement, plus vivement. Et grâce à la manière dont Jésus se révèle à eux lorsqu'il adore au travers des chansons qu'elle présente. D'accord? Et elle dit, je prie que ces chansons deviennent des chemins bien usés vers la salle du trône pour les gens, comme elles ont été pour moi. Voilà donc ce que nous retenons sur l'auteur.
Témoignage riche. Hein. On peut le résumer en une seule phrase. ma vie, la vie doit être un ministère.
La vie du chrétien.
La vie du chrétien doit être un ministère. Oui. Pour les autres. C'est le ministère même que l'on met en place, que l'on met en place pour les autres. C'est ça. Très bien. Alors, l'autre Laurent, on va aborder la première partie de la chanson. On va encore écouter juste la première partie en français et on va entamer le commentaire du premier couplet de cette chanson intitulée Roi des rois, interprété en français. On y va avec la première partie. Voilà, c'était la première partie. Et j'aime bien cette partie-là, qui commence tout doucement, hein, en disant « Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une... » étable. La première partie nous révèle notre état de perdition. C'est ce que j'essaie de comprendre.
Oui, bien
sûr, comprendre,
bien
hein.
sûr.
Hein?
C'est quand on étudie les Écritures et qu'on sait que au début il y a cette voix qui est sortie que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Tout le monde, presque tous les grands prédicateurs, n'importe quel prédicateur, a une fois, d'une manière ou d'une autre, fait référence à cette phrase, à cette fameuse phrase. Malheureusement, notre ancêtre Adam, Dieu a dit que la lumière soit, c'est Adam qui a éteint cette lumière-là. Si vous n'avez pas compris cela en tant que chrétien, là, on peut comprendre pourquoi les gens vivent de manière désinvolte en marchant avec Christ. Adam a plongé, il a introduit les ténèbres dans la création. Il a plongé la création dans les ténèbres parce qu'il a choisi de vivre par lui-même, par son âme, sans Dieu. Il était égaré et il a égaré toute la race humaine et il a affecté la création tout entière. C'est de cela qu'il est question quand l'auteur dit que nous étions là dans les ténèbres sans espoir et autres. Beaucoup de gens, parce que étant charnels, et vivant par les cinq sens, nous avons quoi? De la lumière artificielle, nous avons le soleil qui nous éclaire, et on a comme l'impression que le monde est ce que nous voyons. Non. Ce que notre ancêtre a fait là, il a introduit les ténèbres spirituelles. Et ça a affecté la création tout entière. Si nous ne percevons pas la portée incommensurable de la catastrophe que Adam a introduit, on ne peut pas estimer à sa juste valeur l'œuvre que Christ a accomplie en notre faveur. D'accord? Donc, là, tout le monde est dans les ténèbres. Et l'influence va se faire voir très tôt. Caïn va tuer son frère. D'accord? Vous allez un peu plus loin, vous allez voir Caïn qui s'éloigne de Dieu, il va aller construire une ville, et là, Dieu a dit un homme, une femme. Et il y aura quelqu'un qui va introduire va prendre des femmes à tout bout de champ. Je crois que le tout premier doit être dans la cité construite par Caïn. La polygamie est introduite. C'est-à-dire, à chaque fois, l'homme fera le contraire de ce que Dieu a dit. Et c'est ça jusqu'à ce jour. Et il n'y a sur la terre aucun peuple, aussi développé soit-il, qui puisse échapper à la dimension spirituelle des conséquences de la chute qu'Adam a introduit dans le monde. Donc, là, quand on comprend la chose sous cet angle, on comprend alors la prophétie de Zacharie, dans le Nouveau Testament, prophétie de Zacharie par rapport à son fils Jean, qui est né, mais dont le ministère sera, il sera un précurseur de Christ. Mais je vais m'attarder sur un certain nombre d'éléments. Luc chapitre 1, verset 67, bon, je vais lire verset 77,
Allez, allons-y, 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le salut, là, c'est pas le pardon des péchés, c'est quand nos péchés sont pardonnés que nous avons été justifiés devant Dieu, qu'on obtient le pardon. Donc, ce n'est pas quand j'ai un camion et après j'ai maintenant un avion. Donc, l'évangile de prospérité, là, on continuera de le faire savoir. C'est un poison pour ceux qui écoutent ce genre de choses. L'évangile, le message du salut concerne l'âme de l'homme, en tout premier lieu. D'accord? Tout ce qui vient par la suite, là, c'est juste un adjuvant, un plus que Dieu te donne. Mais si quelqu'un commence par le plus, et pour te faire croire que parce que tu as le plus, tu es enfant de Dieu, non. Et donc ici, la connaissance du salut par le pardon des péchés est un peu plus en bas, maintenant, verset 79, il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand il n'était pas venu, tout le monde était dans les ténèbres. Et quand il était venu, il était la lumière. D'accord? Et si tu viens à lui, quand tu te connectes à lui, vous permettez l'expression se connecter, quand tu te répands, sa lumière, sa vie rentre en toi, et cette vie-là est la lumière des hommes. Tu deviens à ton tour lumière. Je voudrais que vous gardiez cette métaphore-là en progressant. Dans Matthieu chapitre 4, verset 13, quand le Seigneur a commencé son ministère, là il est venu, il a quitté Nazareth, il est venu rester à Capernaum, et là on s'est souvenu d'une prophétie d'Ésaïe, où il est dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc là, nous voyons clairement dépeint le dépeint la condition de l'humanité avant la venue de Christ. D'accord? Donc, le résultat de la prédication de l'évangile du royaume, c'est que les ténèbres vont se dissiper dans de votre vie. Et vous avez maintenant la vie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Saul de Tarse quand il a appelé au ministère. Il faut que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Non pas pour qu'ils passent des casseroles à des châteaux. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Si quelqu'un vient vous dire à chaque fois, sans mettre l'accent sur la repentance et le pardon des péchés, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit de dire. Mais un peu partout dans le monde aujourd'hui, même dans notre pays, il y a plein de gens qui s'évertuent à faire ça là. À faire croire aux gens que Jésus est venu juste pour nous distribuer des bénédictions. Non! C'est le salut de notre âme qui intervient en premier lieu. Et dès que nous sommes sauvés, nous prenons conscience du fait qu'il nous a sauvés pour que nous devenions ses serviteurs et ses servantes. Sauvés pour servir. Jésus n'est pas là comme quoi les idoles d'un village où vous allez, puis si vous honorez vos engagements, vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Non. Nous avons une responsabilité. Nous sommes nés de nouveau et nous devons servir le Seigneur. Donc c'est de cela qu'il est question. Quand l'apôtre Paul expliquait aux Éphésiens, parce que tu sais, à Éphèse, il y a l'idole de Diane, où ils étaient très friands, il leur dit, écoutez, Éphésiens chapitre 2, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, avant leur conversion, tous adoraient leurs idoles. Là, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. D'accord? Étranger aux alliances de la promesse. C'est malheureux que vous prêchez l'évangile à quelqu'un, la personne vous écoute et vous lui dites maintenant il faut chasser les démons. Non, elle n'est pas née de nouveau. C'est quand on devient enfant de Dieu qu'on exerce l'autorité sur les démons. Mais si la personne n'est pas convertie, quelqu'un qui a volé quelque chose ou qui mène une vie qui est contraire à la parole de Dieu, la personne, on l'appelle à la repentance. Jésus a prêché la repentance. Tous ceux qui suivent, qui ont le vrai Saint-Esprit, doivent prêcher la repentance. Pour que la personne naisse de nouveau, et vous lui montrez maintenant, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, tu as maintenant autorité sur les démons. Mais si la personne n'est pas convertie, vous lui dites, allez, 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 il faut chasser les sorciers, il faut chasser les choses. Quand la personne aura fini, elle sera affligée après. D'accord? Donc ici, il a dit clairement aux Éphésiens, voilà ce que vous étiez.
C'est ce que l'auteur aussi, la dame aussi dit dans
voilà, c'est ce qu'elle aussi est en train de
nous
dire.
Étions
nous étions dans une situation
dans
terrible, hein. Terrible, sans issue.
Sans espoir,
personne ne pouvait lever le petit doigt devant les démons. La preuve, dans nos différentes familles, avant que Christ ne vienne dans nos vies, là, pour ceux qui sont issus de milieux profondément païens et fétichistes, vous voyez ce qui arrive? Vous allez dans tel village, vous allez voir les maisons à moitié construites. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut évoluer, on l'éteint. Vous voyez, dans telle famille, les gens, les filles ne se marient jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction là-bas. C'est-à-dire que vous, quand l'Afrique, là, même si vous cherchez ces exemples, vous allez voir un peu partout sur le continent où les ténèbres ont envahi nos vies. Mais quand Christ vient dans nos vies maintenant, il apporte un changement. On n'a plus peur des sorciers, on n'a plus peur de quoi, quelqu'un envoie une incantation et autres là. Donc il faut que ce message soit clair. L'auteur nous montre notre état, l'état dans lequel nous étions, et là, nous méritons rien que la damnation éternelle. C'est pour cela que si je comprends ça maintenant, quand on me dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, parce qu'il y a un risque de perdition éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je comprends ça là, hier, esclave des démons, esclave de quoi? De la magie, des incantations. Hier, esclave de la malédiction, de la maladie, esclave du péché et autres. Et Christ, le message me parvient. Lorsque je reçois ce message, ça apporte un changement à moi. Et là, il doit y avoir une différence entre ce que j'étais hier et ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ça, le message, l'évangile de prospérité n'amène pas sur ce terrain-là. C'est pour cela qu'elle elle injecte en vous le venin de la haine et de la colère. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, c'est l'autre qui t'a fait du mal, venge-toi. Alors que sous la nouvelle alliance, ce n'est pas à toi de te venger. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Revenez, c'est dans la Bible. Si quelqu'un vous enseigne autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, ce que le Seigneur Jésus a dit, et que vous courez derrière ces choses, vous risquez à la fin de grincer des dents dans l'éternité. Donc, vous revenez à ce que... Vous voyez, l'auteur nous présente, vous lisez ça là, que vous écoutez cette chanson, vous avez l'évangile résumé devant vous.
C'est ça.
C'est le message de l'évangile.
C'est ça, voilà. Là, notre état de perdition, et juste après, Christ est venu, quand voilà. Du ciel, tu es descendu, pour nous montrer l'amour du Père, quand Dieu a aimé le
bien
monde,
sûr.
C'est ça l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, la révélation à Marie,
oui.
C'est ça, comme l'avaient dit les prophètes.
Oui.
Les prophètes ont prophétisé.
Oui, bien sûr. La loi et les prophètes, tout cela, c'est pour cela sa résurrection. Il a dit, maintenant, aux disciples, comprenez, d'après ce que les prophètes et ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes, le Christ devait souffrir premièrement. Et après, il allait ressusciter. Et cela s'est accompli. Me voici devant vous. Et à partir de ce moment-là, l'Écriture dit, il a ouvert l'esprit aux apôtres pour qu'ils comprennent. Parce que les Écritures sont d'une essence spirituelle. Si vous lisez la Bible uniquement que d'un point de vue intellectuel, vous aurez une connaissance intellectuelle. Le livre de Dieu a la source même est spirituelle. Et Dieu s'est servi des différentes figures de style pour faire passer le message. Donc il faut être connecté à l'esprit pour que l'esprit t'explique pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Mais si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, on va te prêcher une fausse doctrine et tu ne sauras pas.
Très bien. On va écouter maintenant la deuxième partie de la chanson. Et juste après, on va passer aux commentaires pour davantage comprendre ce qui est dit dans cette partie. On y va. La deuxième partie nous dit ceci, pour nous révéler ton amour, pour nous révéler plutôt ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Alors, cette partie de la chanson-là, on relève deux éléments. D'abord, elle nous donne les raisons pour lesquelles Jésus n'a pas méprisé la croix. Pourquoi Jésus n'a pas méprisé la croix?
Oui, mais c'est bon, c'est quoi? Nous révéler son royaume, d'accord, le royaume de Dieu, nous réconcilier avec Dieu, et pour racheter la création. Tu vois, à ce niveau, par exemple, révéler son royaume, il a dit clairement aux pharisiens qui étaient des religieux à l'époque, profondément versés dans les Écritures, surtout l'Ancien Testament, mais qui n'avaient pas de touche avec le spirituel. Il leur dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous ne pouvez pas appréhender les choses spirituelles à partir de votre corps. C'est impossible. C'est impossible. Naturellement, avec vos yeux, là, avec nos yeux physiques, vous ne pouvez pas appréhender le monde des microbes. Vous ne pouvez pas voir un microbe à l'œil nu. Je vous donne juste, c'est juste un exemple pour que vous compreniez. D'accord? Maintenant, sur le plan spirituel, il est impossible à un être humain de cerner ce qui est spirituel. Et donc, ici, Jésus leur dit, non, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que les royaumes de la terre, vous le connaissez. Tel royaume a telle limite ici, et ainsi de suite. Vous connaissez tout ça. Mais le royaume des cieux est différent parce que ça vient d'un autre monde. D'accord? Et là, c'est pour cela qu'il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais quand quelqu'un est né de nouveau et ne voit pas le royaume, on se dit, l'Écriture dit que si tu es né de nouveau, tu vas voir le royaume.
Donc quand on est né de nouveau et qu'on ne voit pas le royaume,
il faut se poser des questions.
Il y a des problèmes.
Si quelqu'un est né de nouveau et il n'entend pas l'Esprit lui parler, la personne doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a mis à la disposition de chacun de ses enfants. C'est tout à fait normal. Quand un enfant vient au monde et pendant des jours, l'enfant ne fait aucun geste, autre, parfois on pince l'enfant pour qu'elle pleure, pour qu'il ou elle pleure, n'est-ce pas? On veut que ce soit un enfant normal. Donc, il n'y a pas dans le royaume des cieux des aveugles. Il n'y a pas ça. Dans le royaume, les gens, tout le monde voit, tout le monde entend, et chacun sait comment l'Esprit le dirige. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, tu ne sais ni d'où vient le vent, ni où va. Il en est ainsi, donc un parallèle. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Si quelqu'un est réellement né de l'Esprit, il doit savoir comment Dieu lui parle. Si la personne dit, moi-même, je ne sais pas où. Il parle comme, là, on doit vérifier quel évangile on t'a prêché. Parce que quand on te prêche le véritable évangile, ce qui t'arrive, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit, lève la main et répète des choses. Non. Ce qui t'arrive, c'est que quand on te prêche le véritable évangile, l'Esprit de Dieu se saisit du message et t'influence. Il te condamne de péché, de justice et de jugement. Et en ce moment-là, tu vas voir toute ta vie défiler devant toi. Et là, tu te répands. Et quand tu te répands, quand il enlève le poids du péché, tu sauras aussi. Et c'est le même esprit qui te donne la conviction que tu es devenu enfant de Dieu. Si le vrai évangile est prêché, ça produit des fruits réels. Mais si c'est le faux, ça ne peut pas produire de fruits. Parce que le Saint-Esprit ne va pas appuyer une fausse doctrine. D'accord? Donc ici, dans ce qui nous est montré dans la chanson, pour réconcilier les perdus, l'Écriture dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Ça veut dire que nous sommes appelés à réconcilier les perdus avec le Sauveur.
Oui, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, quand il nous sauve, nous sommes appelés à servir. L'apôtre Paul a dit, nous avons un ministère de réconciliation. Si je prêche l'évangile, j'entre dans une famille, je prêche l'évangile à quelqu'un qui est repenti, qui est réellement né de nouveau, et que j'apprends que de par le passé, il ne parle pas avec tel, il ne fait pas ceci. Non, maintenant par la parole de Dieu, tu lui dis non, quand on est enfant de Dieu, on salue tout le monde. Si tu dis que tu es né de nouveau et on t'a enseigné quelque part que tous ceux qui sont tes colocataires sont des sorciers, donc tu ne les salues pas. Ou si tu devais balayer la cour, tu ne balayes pas parce que maintenant, toi tu as la lumière, les autres sont dans les ténèbres, tu n'as rien compris. Tu dois, ces gens qui hier te connaissaient comme étant acariâtre, doivent se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé d'un seul coup? Cette femme-là, ce monsieur-là, d'un seul coup devient jovial, salue tout le monde, est en paix avec tout le monde, et ils vont chercher à savoir. C'est là qu'ils se rendront compte que tu ne fais pas semblant, mais tu es réellement un être transformé. Si Jésus ne transforme pas une vie, elle ne peut pas être transformée. Voilà pourquoi dans les religions orientales, en Asie, au Japon, en Chine, tout ça, là, ces gens-là s'évertuent à pratiquer l'ascétisme et autres, mais ils ne sont pas convertis. Ils ont une certaine maîtrise de soi et autres, mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas dans le royaume. Parce que c'est Jésus seul qui sauve. Donc là, ici, Jésus n'a pas méprisé la croix. Pourquoi? Parce que la mort par la crucifixion à l'époque était réservée aux meurtriers, aux brigands, aux damnés. Et pour montrer jusqu'à quel point la société ne veut rien avoir à faire avec ces gens, après la crucifixion, on enlevait leurs cadavres et on jetait ça sur la décharge publique, qu'on appelle Gehinnom. Et Jésus a utilisé cette illustration pour parler de la réalité de l'enfer. Et c'est en cela que les témoins de Jéhovah ont des problèmes, parce qu'ils ne savent pas quand Jésus fait une comparaison. Et ils disent, non, que l'enfer n'existe pas, c'est un lieu public hors de Jérusalem. Parce que là-bas, effectivement, on enlève le cadavre de cette dame, on le jetait sur la... Oui, ça, ça brûle. Et on, voilà, donc. Mais il faut comprendre la réalité des choses. Jésus a vu tout ça. Il a vu que c'était le prix à payer. Et il a vu qu'on devait l'humilier, que ce serait une mort horrible. Une mort déshumanisante et humiliante. Et il a accepté. Mourir de cette façon-là, pour moi, pour toi, pour nous tous. Et donc, quand on s'arrête, on réfléchit à ça, par moment, on va se dire, est-ce que je pose un acte qui est un signe d'ingratitude à l'endroit de Christ, malgré tout ce qu'il a fait pour moi? D'accord? Donc, là, il vient révéler le royaume, il vient réconcilier les perdus, il vient racheter la création, et il va commencer par l'homme, parce que c'est par l'homme que la création a été négativement affectée. C'est pour cela que le salut commence par l'homme. Quand il aura fini avec l'homme, il va maintenant toucher aussi la création. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Romains chapitre 8, là il est clairement dit que la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc là c'est clair, quand viendra la rédemption totale, la rédemption de notre corps, quand le Seigneur prendra contrôle de tout, Il va
nous amener là-bas.
Voilà, la création à son tour aussi connaîtra sa rédemption, si vous permettez l'expression.
Très bien, ça c'était la première partie de cette partie de la chanson, de la deuxième partie de la chanson. Mais il y a une autre raison qu'il a évoquée, et il parle de la vie de Jésus et de sa mort sur la croix.
Oui, bien sûr, quand il dit tu endureras la souffrance pour nous procurer le salut.
Oui.
Tu es mort pour nous.
Oui.
C'est le message de l'évangile, si on le résume, c'est un échange qui s'est produit à la croix. Il a pris notre mort et nous a donné sa vie. Et c'est voilà pourquoi quand quelqu'un écoute le message de l'évangile et se répand, la personne, certains, la plupart du temps, pleurent parce que d'un seul coup, ils se rendent compte de ce qu'ils ont participé sans le savoir à ce qui est arrivé au Sauveur.
Et ceux à qui le Seigneur fait grâce et se révèle à eux sur la croix, là.
Oui, oui, bien sûr. Là, on voit la laideur du péché. Le caractère subtil du péché, quand la tentation vient, tu ne verras pas ce qui va t'arriver après, non. Ça, c'est comme si c'est la chose la plus succulente. Quand tu tombes dans le péché maintenant, le diable maintenant dit, ok, là, tu es séparé d'avec Dieu. Et si tu continues sur cette lancée, mais ça, c'est l'éternité sans Dieu. Donc, tu vois, Christ a vu tout ça. Il a vu notre hier, et notre aujourd'hui, et notre vie future. Il a vu ça. L'humanité sans lui va aller à la perdition éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Aucun pécheur ne mettra pied dans le royaume. Aucun. Il n'y aura personne qui va entrer au ciel avec l'iniquité cachée sous sa robe. Non. C'est pour cela qu'il va dire à certains, là je vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. La Bible dit Dieu a haï l'iniquité et il a aimé la justice. Donc si je suis enfant de Dieu, on doit retrouver dans ma vie cette sorte de prédisposition nouvelle que j'ai maintenant de haïr l'iniquité sous cette forme et d'aimer la justice. On peut pas dire qu'on est chrétien et on va s'acoquiner avec le péché. C'est ça là, quelqu'un fait ça, faut pas juste te tromper en pensant que tu es encore dans la foi. C'est pourquoi ceux qui prêchent l'évangile de la sécurité éternelle. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. En d'autres termes, oui, le péché que tu as commis hier, ce que tu es en train de commettre aujourd'hui au présent de l'indicatif actif, ce que tu vas commettre dans l'avenir, que le sang de Jésus a tout réglé. Donc, tu peux vivre sous le péché comme parapluie. Quand Dieu veut te voir comme ça, là, il voit le sang de Jésus. C'est une doctrine qui vient des tréfonds de l'enfer. C'est une fausse doctrine. Et il y a des gens qui se complaisent dans ça. C'est pour cela que ces gens-là, quand tu leur prêches sur le retour de Christ, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le péché et l'esprit va rendre témoignage à ton esprit. Non, il va te convaincre de péché. Donc, il faut revenir aux Saintes Écritures et savoir pourquoi Jésus est mort. Cette chanson est en train de nous révéler pourquoi il est mort et l'étendue du prix qu'il a payé pour notre salut.
Très bien, c'est pas encore fini. On va aborder la
le troisième couplet, et juste après ça sera le refrain. On y va avec le troisième couplet. L'autre Laurent, j'aime bien cette partie de la chanson, hein, parce que là, tout est dit, hein, il est parlé de la résurrection de Jésus-Christ.
Ouais.
Il a également fait mention des événements survenus parmi les morts et dans les cieux. Des choses se sont produites.
Oui, il y a plein de choses qui se sont passées le jour-là. Sa résurrection, d'abord lui-même sa résurrection, ensuite la résurrection des saints.
Oui, la résurrection des saints, il y en a déjà eu.
Oh oui, ça c'est dans l'au-delà, il y a deux compartiments. Il y a une partie réservée aux âmes damnées, l'autre qui est en lien avec
l'enfer.
Oui, d'un côté.
Hein, le séjour des morts
est différent de l'étang de feu et de soufre. Il y a beaucoup de gens qui sont confus à ce niveau.
C'est ça. Le séjour des morts.
C'est ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre, d'accord?
Okay.
Qu'on appelle encore l'enfer.
D'accord.
Maintenant, l'étang de feu et de soufre, il y a personne là-bas pour le moment.
Actuellement.
Non, il n'y a personne.
Ça se produira juste après que...
Les premiers qui vont atterrir là-bas, c'est l'Antichrist et le faux prophète. C'est eux qui seront les premiers...
À atterrir.
Oui. Okay. Selon l'eschatologie. Mm-hmm. D'accord. Après, Lucifer va aller faire un tour lui aussi là-bas pour 1000 ans, pour goûter les choses en attendant. Et après, c'est pour cela que quand les gens des révélations aujourd'hui voient des démons qui torturent les gens dans les flammes du réseau, les régions inférieures de la terre. Parce que là, c'est pas encore les temps de feu.
Parce que dans les temps de feu, de soufre,
tous ceux qui seront là seront tourmentés. Et les damnés et les démons. Tous seront tourmentés
tous
au siècle des siècles.
Là, les démons n'auront plus le temps.
Non, ils seront tourmentés. Parce que c'est eux qui ont introduit le désordre dans lequel nous sommes. Et donc, ils vont payer pour ça.
Ok. Là, les temps de feu, c'est pour après.
C'est pour maintenant.
Très bien. Mm-hmm. Maintenant, il y a eu des saints qui sont ressuscités.
Et eux qui sont ressuscités, c'est pour cela que Paul va expliquer cela. Il dit, le Seigneur, quand il a ressuscité, il a pris les saints et les a amenés avec lui. D'accord?
C'est les saints qui étaient morts.
Ah oui, bien sûr.
C'est les saints qui étaient morts à la mort. Ils étaient déjà morts lorsque Jésus mourait. Et quand il est ressuscité, il est
à la résurrection. Et là, même dans la ville, dans certains évangiles, on vous dit que les gens ont vu ces gens apparaître. Et après, on ne les a plus vus. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis.
Ils sont partis.
Ah.
Très bien.
D'accord. Donc, cette partie-là est clairement expliquée. Maintenant, on va aller à...
La naissance de l'Église.
Oui, la naissance de l'Église. Parce que sans la résurrection et l'ascension de Christ, l'Église ne naîtrait pas.
Oui.
À la croix, le sang a été versé.
S'il te plaît, et on va le dire parce que là, l'auteur l'a dit. Et l'Église de Christ est née. Non, la naissance de l'Église est intervenue à la résurrection de Jésus-Christ.
Résurrection, ça c'est le premier aspect.
Oui.
Deuxième aspect, l'ascension. Si.
Voilà.
Et quand il a accédé au ciel, maintenant, quand il est entré au ciel en tant que souverain sacrificateur, parce que par son sang, maintenant, il sanctifie le temple, d'accord? Et à partir de là, maintenant, il reçoit du Père l'Esprit.
Voilà.
Il reçoit du Père l'Esprit parce qu'il a été fait Christ et Seigneur. C'est sur cette base-là qu'il reçoit l'Esprit et il donne. Et c'est l'Esprit maintenant qui permet à l'Église, qui donne vie à l'Église. Et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Parce que quand Jean-Baptiste avait dit...
Mais comment cette jeune dame-là maîtrise la doctrine? Comment se fait-il?
Là, on peut dire d'abord, ça dépend de l'Église dans laquelle elle est.
Oui.
Il y a ça, il y a aussi ça, dépend aussi de l'inspiration. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais inspirer
ce qui est
la fausseté, non. C'est pour cela que, en ce qui est, de tout ce qui est en rapport avec la résurrection du Seigneur, s'il y avait un brin de fausseté dedans, ça ne viendrait pas de Dieu ne va pas l'approuver. Parce que l'esprit ne va jamais approuver quoi que ce soit qui a un lien avec les ténèbres, avec le mensonge, avec le mal. Donc, l'auteur inspiré a pu expliquer, donc tu vois, de façon, elle résume l'évangile. D'accord? Qui Christ était, quand il était en vie, à sa mort, sa résurrection. Après sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? L'église est née, sa flamme attisée par l'esprit. Parce que quand Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. D'accord? Il n'a dit à personne, voilà, je vous baptise d'eau pour que vous semez dans mon ministère, pour me donner de l'argent. Hein, comme ça, si vous avez un vélo, vous aurez une voiture. C'est, ça là, ça se répand partout et on trompe les gens. Le message, c'est le message de la repentance. C'est l'homme qui se repent. Et Dieu lui pardonne ses péchés. Si vous n'êtes pas sincère dans votre repentance, il n'y aura pas de pardon pour vous.
C'est ça.
Pharaon s'était repenti à plusieurs reprises, mais il n'était pas sincère. Hein, à plusieurs reprises. Il a donné l'impression que, voilà, ok, mais il n'était pas sincère. D'accord? Donc ici, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, lui, il était avant moi. On va dire, c'est une contradiction. Puisque Jésus est de toute éternité. D'accord? Et dans l'éternité, il s'appelait pas Jésus, c'est sur la terre qu'il a ce nom. D'accord? Donc, là, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ce n'est qu'après son ascension que il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, il a le droit de baptiser de Saint-Esprit ceux qui croient en lui. Il a dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Donc, il n'y aura personne qui soit en train de vivre dans le péché et Dieu va le baptiser du Saint-Esprit. Non, dans la maison de Corneille, Corneille a fait un bon travail chez les siens. Ils se sont répandus, ils s'étaient préparés avant même que Pierre n'arrive. Voilà pourquoi cette œuvre a été faite instantanément, simultanément chez eux. D'accord? Donc, encore une fois, quand on vous dit non, je veux recevoir le Saint-Esprit, lève les deux mains et dit Alléluia, 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 et commence pas à parler en langue. Il n'y a rien comme ça. Dieu ne prend jamais de raccourcis. C'est un Dieu qui a son protocole. La repentance et le pardon des péchés. Frère, il faut prêcher ça. Ma soeur, c'est ce à quoi on nous a appelés. Faut pas venir nous dire qu'un blanc est venu dire quelque chose, un noir est venu dire quelque chose. Il faut dire ce que l'évangile dit. C'est ce que Pierre a prêché chez Corneille. Il a décrit ce qui s'est passé. Christ est venu. Pourquoi il était venu? Il a expliqué. Et quel est l'objectif? Il a expliqué. Et l'esprit s'est saisi de ça. Mais quand tu prêches une fausse doctrine, ne t'attends pas à ce qu'il n'y ait rien du tout. Donc là, il dit des langues semblables à des langues de feu étaient descendues sur eux. L'église était née dans le feu. Et l'église doit continuer à prospérer, à avancer dans le feu. C'est pour cela que chaque fois que les hommes, d'une manière ou d'une autre, s'arrangent pour étouffer l'action de l'esprit, vous allez voir que ce qui reste là, c'est juste une vie monotone, une vie morose, une vie maussade, c'est la religion, on commence comme ceci, on finit de cette façon, et on se complète dans ça. Un de mes professeurs m'a dit que chaque œuvre de Dieu commence par un mouvement. Dieu se saisit d'un homme, d'une femme ou d'un groupe, et là, l'œuvre commence. Et là, vous allez voir l'esprit en action. Les gens se répandent, il y a plein de choses. Mais avec le temps, dès qu'il, quand l'homme veut prendre la place du Saint-Esprit, il ne sait pas quand l'esprit l'a laissé. Et ça finit par devenir un monument. Examine l'église dans laquelle tu es. L'esprit est toujours là, actif. Le Saint-Esprit est-il le maître de l'œuvre ou bien c'est les hommes? Est-ce que des vies sont transformées? Normalement, quand il y a des transformations de vie, chaque semaine, vous allez entendre des témoignages de ceci s'est passé, telle personne, pas nécessairement la guérison, mais les transformations de vie, la repentance, des vies complètement transformées. Quand ça ne se passe plus, et qu'on est juste là comme ça, même venir à l'église, ça devient comme un poids pour toi. Mais quand l'esprit est actif, on te demande, mais qu'est-ce qu'on te donne à l'église? Et tu es zélé, tu veux aller à l'église, tu veux faire ceci. Frère, il faut qu'on revienne à l'évangile. Et qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a tellement d'églises aujourd'hui, mais qu'est-ce qui arrive? Où est la vie de pureté? Où est la transformation? Où est la sainteté? Où est le changement que Christ a apporté dans des vies? On a vu dans la Bible, dans la vie de ceux qui nous ont devancés, même dans les siècles passés, les témoignages sont là. Nous lisons ces livres et autres ouvrages de témoignages et autres. Mais pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup, cette vie-là, une vie transformée? C'est Jésus seul qui fait ça. Et on n'a pas ça aujourd'hui. Il faut se poser la question parce que l'église est mue par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le feu de l'Esprit là qui nous fait faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. Lorsque le feu s'éteint dans votre vie, vous pouvez toujours continuer à prêcher le message, mais il n'y aura pas de répondance spirituelle. Il n'y aura rien qui accompagne. Vous maîtrisez le rouage de la rhétorique, dans la prédication, dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais il y a rien.
C'est ça.
Il n'y a rien qui se passe. Parce que l'Esprit vous a laissé, vous ne vous êtes pas rendu compte.
Très bien. Et à part la naissance de Jésus, la naissance de l'Église, excusez-moi, et il est également dit dans cette partie de la chanson, notre nouvelle condition. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais.
Ça là, c'est le livre des Actes des Apôtres, plus tard les églises qui étaient nées après. Parce que ces gens savaient. Ils suivaient la doctrine des apôtres.
Ça veut dire que notre vie doit, tu viens de le dire, notre vie doit être un ministère.
Oui, c'est ce que la dame elle-même a dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand l'Esprit dirige, il n'y a pas de monotonie. Hier, tu étais assis à table quand il t'a parlé. Demain, si tu viens t'asseoir là-bas, il ne te parlera pas. Pour que tu comprennes qu'il a mille et une façons d'agir. Peut-être que quand c'est au moment où tu te lèves là, il va te parler. D'accord. Donc, je ne sais pas comment expliquer. La vie chrétienne est dynamique. C'est une vie expérimentale dynamique. Et tu sais, quand Dieu te dirige là, toi-même, tu sais, tu es conscient de ça.
Très bien.
D'accord. Donc, ici, par son sang, en son nom, là, les premiers disciples savaient tout ça. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de leur prouesse personnelle. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Ils étaient des témoins de Jésus. Et ils annonçaient la vie ressuscitée de Christ. Maintenant, quelle est la preuve tangible, manifeste dans le monde que Jésus a ressuscité? C'est quand il fait ce qu'il a fait dans les évangiles là, il le fait encore aujourd'hui. C'est ça la preuve qu'il a ressuscité. Qu'il est vivant et qu'il vit dans chacune des disciples, ceux qui le savent. Donc, par sa victoire, je suis libre. Cette liberté dont on parle ici, c'est l'affranchissement de l'influence du péché. Libre. Tu ne vas pas, je ne sais pas comment expliquer. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous affranchit du péché, vous serez réellement libre. S'il ne l'a pas fait, vous allez faire semblant. C'est une question d'expérience. Et quand il aura fait dans votre vie, vous vous rendrez compte que, avant là, j'étais esclave de ça. Mais maintenant là, non, impossible. C'est ce que Christ fait. Et quand tu as cette liberté maintenant, vis-à-vis du péché, le péché n'a plus d'impact sur toi, tu vas voir maintenant, l'Esprit te dirige très facilement. C'est très aisé pour toi d'écouter sa voix, de savoir comment il te dirige. Quand il n'est pas d'accord avec toi, il va te le signaler. Quand tu fais ce qui n'honore pas Dieu, il va te réprimer. Parce qu'il n'y a pas de nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu, mais nous ne sommes pas des enfants gâtés. Pour que Dieu ferme les yeux sur nos péchés, nos égarements, non. Quand nous faisons ce qui est mauvais, il va nous réprimer. Mais si nous marchons avec lui, il nous encouragera à continuer. Parce que l'objectif, c'est que Christ soit manifeste dans chacun et dans chacune d'entre nous. L'apôtre Paul l'a dit, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Okay. L'objectif étant que partout où on parle de lui, il doit y avoir des preuves tangibles de cette autorité suprême que Christ a sur l'univers tout entier.
Ok, on va finir avec la partie refrain. Louange au Père, gloire au Fils. On va finir avec ça dans quelques instants. La chanson finit sur cette note de refrain, de louange, d'adoration. On doit louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait.
Bien sûr, oui.
Louange au Père, louange au Fils, gloire au Fils, et béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais.
Oui, mais tu sais, ici, ça, il faut, notre situation, Église du 21e siècle, est terrible. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui fait ça. C'est lui qui te dit que Jésus est Seigneur. Et cette conviction-là, ce n'est pas parce que tu as lu un verset. Non, même si tu lis le verset, c'est lui qui prend le verset et l'imprime dans ton esprit. Et ça produit en toi une conviction inébranlable. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de communion avec lui. Ils n'ont pas de relation avec lui. Les révélations que nous recevons, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces révélations. Et quand il prend la révélation, ce que Christ lui dit, il le prend et le met sur notre esprit. Et nous avons ces révélations. Nous ne sommes pas comme ceux qui pratiquent quoi, le mysticisme, qui par eux-mêmes, comme les sorciers par exemple, qui sortent de leur corps. Non, non, non. Quand on est chrétien, nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle qui Jésus est, qui est le Père, en quoi consiste le royaume, qu'est-ce que l'Écriture dit, c'est lui qui fait ça là. Donc là, c'est tout à fait normal de louer le Père, de louer le Fils et de louer le Saint-Esprit. Les trois ont participé à notre création, les trois ont participé à notre rédemption. Quand Jésus est venu, le Saint-Esprit a participé à la conception de Christ. Quand Christ était venu au Jourdain, c'est lui qui est rentré en lui, qui l'a baptisé. C'est lui qui l'a conduit au désert, c'est lui qui l'a conduit tout au long de son ministère. Mais en même temps, Christ dira, le Père est en moi. Le Saint-Esprit était là en lui et le Père aussi est là. Mais chacun vient jouer son rôle d'une manière, de façon séquencée. C'est pour cela que quand il partait, il dit maintenant, moi je vais partir, mais le Saint-Esprit viendra. Donc le Saint-Esprit, c'est lui actuellement qui contrôle l'œuvre dans le monde entier, qui produit la nouvelle naissance, qui produit la conviction, qui produit la sanctification. C'est lui qui produit, c'est lui qui nous baptise de lui-même et de son feu. Et c'est lui qui nous appelle dans l'œuvre aussi. Tu vois, tout autour de la personne du Saint-Esprit, malheureusement, nombreux sont ceux qui se disent sont chrétiens, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit.
Très bien. Merci l'autre Laurent, merci également à vous qui nous avez suivis sur cette antenne, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tardait à revenir, on va se retrouver le dimanche prochain pour un autre chant à étudier dans cette émission. Mais en attendant, on vous laisse avec la chanson « Roi des rois » interprétée par la sœur Brooke. On se dit au revoir et à bientôt.
Nous étions là dans l'été.